journée, des pluies qui seront localement soutenues et qui s'accompagnent de bonnes rafales de vent. Attention, on a quand même un risque de pluie verglaçante ce matin encore sur l'ouest du massif central. Ça reste sec près des frontières de l'Est aujourd'hui, mais le ciel est couvert. Et donc les températures pour cet après-midi encore très contrastées, seulement 3 degrés à Strasbourg, 7 à Lille, mais 9 degrés à Paris alors qu'on avait 3-4 degrés hier après-midi, 13 à Brest, 15 à Bordeaux et 17 à Biarritz.
Merci Patricia Charbonnier, bon dimanche avec nous sur France Info, bienvenue, il est 9h. Voici votre journal, voici Théo Metton-Régimbault. Bonjour Théo.
Bonjour à tous. À la une de ce dimanche 23 novembre, la neige passagère en Île-de-France, elle fond déjà. Encore deux départements du Massif central en vigilance orange. Vers le retour à un service militaire en France, mais sur la base du volontariat, le gouvernement planche sur le sujet. 5 jours pleins d'écoles pour des journées moins chargées, autant de vacances scolaires, mais seulement 2 zones. La Convention citoyenne sur les temps de l'enfant rend son rapport aujourd'hui. Et puis des démons, un chasseur, c'est la recette du succès pour la saga japonaise Demon Slayer, on vous raconte. Le Cantal et le Puy-de-Dôme restent pour le moment en vigilance orange, neige et verglas. De la neige aussi en Île-de-France, il est tombé cette nuit jusqu'à 4 cm. Mais si vous ouvrez les yeux maintenant, il ne reste plus grand-chose, pas de quoi faire une bataille de boules de neige. Sur les routes, le trafic est fluide. En région parisienne, il n'y a pas eu d'incident majeur grâce à la mobilisation des déneigeurs. Bastien Salès, responsable des routes en Île-de-France.
Nos équipes ont été mobilisées toute la nuit pour permettre un retour à la normale de la circulation. Et donc on a dû sortir des neigeuses. On a eu très peu d'accidents pendant la nuit. Donc maintenir cette vigilance et maintenir cette baisse de la vitesse sur nos routes, moins 20 km/h qui a été déterminée par arrêté de la préfecture.
Et plus aucun département d'Île-de-France n'est en vigilance orange ce matin. Face à l'hypothèse d'un conflit armé en Europe, le service militaire sera-t-il de retour en France? Le gouvernement veut recruter des jeunes dès l'année prochaine pour un service militaire volontaire payé après l'échec du service national universel. Objectif 50 000 personnes à l'horizon 2035, chiffre révélé par la Tribune dimanche. Des réflexions en cours, confirme sur France Info ce matin la ministre déléguée aux armées Alice Ruffo.
Oui, je confirme qu'il y a des travaux en ce sens. Vous avez parlé de volontariat. Je pense que c'est effectivement un mot-clé. Il y a différents cadres. Après, il est clair, et moi je travaille au ministère des Armées, que le métier des armes est un métier particulier et qu'il est possible de s'y engager, mais sur une base évidemment volontaire. Après, il y a d'autres formes d'engagement qui sont utiles à la défense du pays, qui peuvent être sollicités.
Il faut que ce soit rémunéré un peu quand même, on disait 900, 1000 euros par mois.
Je vous dis que juste qu'on y travaille, mais ça sera vraiment au président de le faire. Non, ce qui compte, c'est de faire confiance à la jeunesse et de lui donner les moyens d'avancer. Donc oui, y compris de cette manière-là.
Alice Ruffo, ministre déléguée aux armées, le probable retour du service militaire sur la base du volontariat, un projet qui fait écho aux propos tenus cette semaine par le chef d'état-major des armées qui ont provoqué la polémique. Devant les maires de France, le général Mandon a expliqué que le pays devait être prêt à accepter de perdre ses enfants. Il s'est expliqué hier dans l'émission C'est à vous sur France 5. Son but était d'alerter et de se préparer.
Le choc est une réaction humaine et j'ai des amis qui, ces dernières heures, m'ont écrit, m'ont posé des questions. J'ai moi-même des enfants. Je mesure à quel point certains ont pu être inquiétés. Mais le rôle de cette intervention est d'alerter et de se préparer. Moi, j'ai une grande confiance dans notre pays et dans nos armées. Nos armées sont très fortes. C'est une référence en Europe. Et notre pays a toujours su faire face aux défis. Mais pour faire face à quelque chose, il faut s'y préparer.
Emmanuel Macron a redit hier toute sa confiance en le chef d'état-major des armées. Il estime que ses propos ont été détournés pour faire peur. La paix en Europe au programme des discussions aujourd'hui en Suisse. Responsables ukrainiens, américains et européens autour de la table pour discuter du plan de paix de Donald Trump. Kiev craint d'être poussé à capituler face à la Russie. Et ce qui inquiète les Ukrainiens, le plan américain reprend des exigences de Moscou, notamment la cession des territoires et la diminution de la taille de l'armée ukrainienne. La Convention citoyenne pour les temps de l'enfant à l'école rend ses 20 propositions aujourd'hui. C'est la fin de 5 mois de travail pour les 130 Français tirés au sort qui vont remettre leur rapport au gouvernement. Des propositions pour favoriser l'apprentissage, le développement et la santé des enfants. Noémie Bonin.
Alors, ces citoyens proposent de réorganiser la journée scolaire avec un début de cours retardé à partir de 9h seulement au collège et au lycée. Ils souhaitent aussi placer les enseignements théoriques le matin pour consacrer l'après-midi à des activités pratiques, sport, art, mais aussi ateliers de la vie courante, bricolage, cuisine, couture, ménage, plomberie ou encore gestion financière et même préparation aux impôts. Les devoirs devraient pouvoir être faits beaucoup plus à l'école pour ne laisser que des petites révisions à la maison, défendent les participants à cette convention. Pour alléger les journées scolaires, ils imagine en contrepartie une semaine d'école à 5 jours, du lundi au vendredi. Et sur les vacances, sujet peut-être le plus sensible, ces citoyens ne veulent pas les réduire ou les modifier, mais juste passer de 3 zones à 2 pour alterner plus équitablement les semaines d'école et celles de congé. Ça permettrait aussi à toutes les régions d'avoir au moins une semaine en commun.
Noémie Bonin, spécialiste éducation de France Info. 6000 personnes ont marché hier à Marseille en hommage à Mehdi Kessassi, 20 ans, tué il y a 10 jours. Son frère, le militant Amine Kessassi, a appelé à entrer en résistance contre le narcotrafic sans céder à la peur. Mais après cette marche blanche, comment le combat va-t-il se poursuivre ? Mathilde Vinceneux, vous avez rencontré deux éducatrices des quartiers nord de Marseille lors de cet hommage.
Dans la foule, Sabrina a du mal à trouver les mots, secouée par l'émotion. L'assassinat de Mehdi Kessassi, c'est un assassinat de plus, encore un de trop, dit-elle. Éducatrice, elle sait l'emprise des réseaux de trafic de drogue dans les quartiers nord et elle a récemment quitté son poste.
Je travaillais dans la protection de l'enfance et c'était un de mes combats, c'était les enfants qui tombaient dans le narcotrafic. J'ai arrêté parce que c'était plus possible de supporter la mort de chacun de ses enfants. Et j'espère que Marseille va vraiment lutter contre parce qu'il faut arrêter. Il faut qu'on arrête tout ça. Donc là, c'est un début peut-être à quelque chose de nouveau. Qu'on dise non ensemble, en fait.
Je ne sais pas si ça va changer grand-chose.
Fatima, elle travaille et vit depuis de longues années dans les quartiers nord de Marseille.
Moi, mes enfants ont vu des morts. En jouant au foot, ils ont vu des gens se faire tuer. Moi, j'habite dans un grand quartier, je le vis au quotidien, je suis éducatrice comme Sabrina. Et on voit cette jeunesse perdue. On a l'impression qu'elle n'est pas aidée. On va envoyer les CRS pendant 2-3 jours et après ils s'en vont. Là, il faut faire un travail de fond, vraiment. Des aides dans les quartiers pour ces jeunes-là.
Des services publics, des subventions pour les centres sociaux. Voilà ce que réclament ces éducatrices qui ont bien du mal à croire au sursaut politique, malgré la présence d'élus de tous bords lors de cet hommage.
Mathilde Vinceneux à Marseille. Il a tenté de casser son bracelet électronique avec un fer à souder. L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro conduit en détention provisoire alors qu'il était en résidence surveillée. La justice considère qu'il a voulu s'échapper. L'ancien dirigeant condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État explique son geste par la curiosité. France Info 9h07, c'est une collection de mangas à succès devenue série animée puis film au cinéma. La saga Demon Slayer rencontre un succès fou, l'histoire d'un jeune chasseur de démons. Cette semaine, le dernier, La Forteresse Infinie, est devenu le film japonais le plus rentable de l'histoire, Matteo Maestrachi.
Ce que nous allons vivre n'est rien d'autre qu'un épilogue.
Et la France n'échappe pas à ce raz-de-marée, avec près d'1,8 million de spectateurs dans les salles depuis mi-septembre, après le succès déjà impressionnant du chapitre précédent, Le Train de l'Infini, sorti en 2021. Plus de 700 000 spectateurs, alors, dans des cinémas pourtant encore handicapés par les jauges de l'époque Covid. Pas surprenant pour Didier Passamonique, commissaire de l'Expo Manga, présenté en ce moment au musée Guimet à Paris.
Le manga lui-même, il est très très bien fait, il est très passionnant, mais il n'a rien d'exceptionnel. Ce qui a été exceptionnel avec Demon Slayer, c'est le dessin animé. Le dessin animé qui a fait ce score incroyable que vous racontez, c'est un des plus beaux dessins animés de l'histoire du dessin animé japonais. La qualité de l'animation, c'est au-dessus de tout.
Demon Slayer, La Forteresse Infinie, a dépassé les 100 milliards de yens de recettes dans le monde, soit 556 millions d'euros, dont plus de 90 millions hors du Japon, ce qui en fait le film japonais le plus rentable de l'histoire, devant les œuvres mondialement célébrées d'un certain Hayao Miyazaki, comme Le Voyage de Chihiro.
Alors que la fête commence.
Matteo Maestrachi, service culture. Le Paris Saint-Germain a battu le Havre 3-0 hier soir au Parc des Princes. Les Parisiens reprennent la tête de la Ligue 1 de football. Autre victoire au Stade de France, celle du 15 de France en rugby, qui achève sa tournée d'automne 48-33 face à l'Australie.
Merci à vous Théo Metton. Réginbeau, Patricia Charbonnier. Bon, aujourd'hui, ça ne va pas être plus terrible qu'hier, même si ce sera moins froid.
C'est moins froid, mais c'est vraiment très agitée puisque c'est la pluie qui prend le relais sur une bonne partie du pays aujourd'hui. Et avec ces dégradations pluvieuses, on a quand même le redoux qui se confirme, qui s'amorce bien. Même ce matin sur les régions de l'Ouest, on a simplement un risque encore de pluie verglaçante autour du Massif central. Donc c'est gris, c'est très humide avec du vent en plus sur les côtes, mais sous la perturbation également, des vents assez soutenus et des températures très contrastées. On a encore de fortes gelées ce matin sur le Grand Est, moins 6 degrés à Nancy, moins 3 degrés à Lyon, seulement 3 degrés cet après-midi à Strasbourg, 7 degrés à Lille, mais 9 degrés à Paris, 11 à Marseille, 13 à Brest et jusqu'à 17 degrés au Pays Basque.
Patricia Charbonnier.
Les éditions Radio France présentent
France-Algérie, anatomie d'une déchirure.
Un livre de Thomas Negaroff et Benjamin Stora.
Hérité d'une longue colonisation et d'une guerre d'indépendance sanglante, l'histoire commune de ces deux pays reste à vif. Après la libération de Boualem Sansal, la réconciliation est-elle possible?
Un ouvrage clair, enrichi de cartes.
France-Algérie, anatomie d'une déchirure.
Un livre France Inter.
Et restez avec nous, voici vos rendez-vous. D'ici 9h30, rythme scolaire. Le mot déchaîne les passions, vous le savez, la Convention citoyenne sur le sujet rend ses travaux et ses propositions veulent tout chambouler. Ça, on en parle tout de suite. À suivre aussi 9h20, vos rendez-vous du dimanche, l'histoire d'une femme ukrainienne engagée volontaire dans l'armée de son pays. C'est le livre de la semaine. Nous parlons travail aussi et puis on s'intéressera à notre santé. Julien Méniel, vous nous parlez de quoi ce matin?
Aujourd'hui, je vous mets en garde contre ces produits ménagers qu'il ne faut surtout pas mélanger.
Ah, vous allez nous dire lesquels, on attend vos conseils dans un quart d'heure, 9h10.
France Info, 7h10, Adrien Beck.
Les vacances scolaires sont-elles trop longues? Les semaines d'école sont-elles trop chargées? Les enfants ont-ils suffisamment de temps pour faire du sport? Vous avez sans doute un avis sur la question. Voilà que la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant rend le sien, 130 citoyens tirés au sort, convention voulue par Emmanuel Macron. Alors va-t-on assister à une petite révolution à l'école? On en parle avec vous, Jean-Carl Deschamps, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin sur France Info, en studio, membre du comité de gouvernance de cette convention. D'abord, le premier constat qu'ont fait ces 130 citoyens tirés au sort, c'est que les journées de cours, eh bien, elles ne sont pas forcément adaptées au rythme, on va dire, biologique des enfants, c'est ça?
Oui, plus globalement, les rythmes de vie imposés aux enfants. La Convention citoyenne ne portait pas spécifiquement sur le temps scolaire, mais sur les temps de vie de l'enfant, donc d'une manière globale. Et ce que constate la Convention, c'est une fragmentation à l'extrême, totalement inadaptée aux besoins physiques, psychiques des enfants.
Pour être très concret, si on prend l'exemple de l'école, on va parler de ça ce matin, ça veut dire qu'une journée de cours qui commence à 8 heures, dans certains cas, c'est trop tôt par exemple.
Oui, c'est effectivement l'une des propositions que font les citoyens, que de décaler le début de l'école à 9h. Ils ont d'autres propositions concernant l'école.
On va les détailler.
Et nous allons les détailler.
Alors attendez, ça voudrait dire début des cours à 9h à l'école contre 8h, 8h30 dans certains cas aujourd'hui.
Oui, tout à fait.
Ça a fait consensus.
Ça a fait consensus au sein de la Convention citoyenne, bien sûr. Oui.
On pense quand même, malgré tout, dans ce cas-là, aux parents qui ont un travail, peut-être, quelquefois, qui doivent aller au travail à 8h30, 9h dans certains cas. Est-ce que ça s'est pris en compte? Est-ce que ça a été travaillé, ça? Ça obligerait à changer, j'allais dire, toute l'organisation familiale?
Cette convention n'a pas inventé
des choses. Elle n'est pas hors sol, quoi.
Elle n'est pas hors sol. Elle est constituée de citoyens qui n'ont pas forcément de rapport avec les enfants directs aujourd'hui, parce que, comme moi d'un grand âge, par exemple, mais elle a fait le travail qu'on lui a demandé. Et ses propositions, effectivement, elles bousculent. Quelle que soit la proposition, alors, elle va bousculer.
Justement,
sauf à ne rien changer.
Détaillons encore la question aussi de l'organisation des semaines de cours est évoquée. On sait qu'il y a toujours la question des 4 jours, 4 jours et demi. Et bien là, la proposition, elle est tout autre.
Elle est tout autre. Elle est sur 5 jours, du lundi au vendredi, avec plutôt une orientation vers des cours le matin d'apprentissage réflectif, si j'ose
théorique,
dire. Théorique, mais d'apprentissage fondamentaux. Merci, c'est dur le dimanche matin pour moi. Et puis l'après-midi, plutôt sur des apprentissages de savoir-faire, de savoir-être.
Cours éventuellement de couture, de cuisine, et même cours pour les impôts, pour apprendre comment faire payer ses impôts. Tiens.
C'est une demande des jeunes qui ont travaillé là-dessus, effectivement, que d'avoir des approches de la vie quotidienne. Mais bien au-delà de ces quelques exemples qui peuvent être effectivement importants, il y a toute la partie des savoir-faire et des savoir-être, du vivre ensemble, mm-hmm. et puis toutes les activités sportives et culturelles oui. qui sont extrêmement importantes et qui ont d'ailleurs un rapport. Quand on fait du théâtre avec des gamins, on fait aussi de l'apprentissage des situations.
Sur les activités sportives, par exemple, les jeunes qui se sont exprimés disent « on a envie d'en faire davantage ».
Bien sûr, les jeunes et les moins jeunes.
Alors, il y a aussi, évidemment, ça c'est un sujet serpent de mer, marronnier, appelez-le comme vous voulez, qui revient tout le temps, les vacances. Emmanuel Macron, tiens, s'est dit plusieurs fois tenter de raccourcir les vacances d'été. On écoute le chef de l'État, c'était lors d'un échange avec un élève au mois de février à Colmar.
La question qu'on peut se poser pour nos enfants, c'est de savoir s'il ne faut pas un peu revoir les vacances pour pouvoir décontraindre un peu les semaines pour mieux apprendre. Il y a beaucoup de pays qui partent en vacances, par exemple, qu'à partir du 14 juillet l'été. C'est vrai qu'on a des vacances qui sont très très longues l'été, ce qui fait d'ailleurs pour les enfants qui ne sont pas accompagnés forcément dans leur famille, ils vont perdre souvent du niveau scolaire.
Alors que dit cette convention sur les vacances d'été ?
La convention, elle dit que sur les vacances d'été, il n'y a pas de consensus pour faire bouger les choses.
Mmh.
Qu'il n'y a pas forcément d'ailleurs de réels problèmes. Par contre, elle dit que le rythme scolaire annuel est au-delà des vacances d'été avec ce qu'on appelle les petites vacances, celles du printemps, de l'hiver mmh. ou de l'automne. Il y a à revoir les choses pour qu'il y ait une alternance 7 semaines de cours et d'école et 2 semaines de vacances qui soit plus respectuée parce que cette alternance est
et
la nécessité
de base. Quelquefois, on a l'impression que les vacances, elles s'enchaînent un petit peu ou que certains ont des plages sans vacances un peu trop longues.
Absolument. Il y a notamment à travers le fait qu'il y ait beaucoup de zones de vacances sur l'hiver, à revoir cela. C'est pour ça que la Convention propose de passer de 3 à 2 zones.
Alors là, la question que je vous pose, c'est, ça voudrait dire donc des plages de vacances moins longues. Est-ce que, je pense par exemple aux vacances, les vacances de Noël, alors là c'est même pour tout le monde, mais les vacances d'hiver qui s'étalent et on pense aux professionnels du tourisme, est-ce qu'en l'espèce, il y en a qui ont été auditionnés ?
Bien sûr, parmi les 80...
Ils sont d'accord avec ça ?
Ah, mais nous n'avons pas dit, et la Convention n'a pas dit qu'ils étaient tous d'accord. Mmh. D'ailleurs, si quelqu'un avait la baguette magique, je pense que le président de la République n'aurait pas posé cette question à 130 citoyens. Ce qui fait la spécificité d'une Convention citoyenne, justement, c'est que ce sont des citoyens tirés au sort qui n'ont aucun intérêt à titre personnel oui. et qui ont choisi d'accepter de dépasser leur propre approche et leur propre, quelquefois, conviction pour ensemble donner un avis partagé. Et cet avis, il est très consensuel, puisque les 20 propositions ont chacune été votées à plus de 70%.
Alors, ce qui fait aussi la particularité des conventions citoyennes, on se rappelle qu'il y en a eu une sur le climat, qui a laissé un peu un goût amer à ses participants, une autre sur la fin de vie, là, qui est plus suivie, le texte poursuit son chemin, c'est qu'elle est les conclusions sont adoptées ou ne sont pas adoptées. Est-ce que là, vous avez des indications sur le fait que ces conclusions pourraient être reprises, sinon par le ministère de l'Éducation, en tout cas peut-être par les rectorats, je ne sais quoi.
Est-ce que nous avons des garanties d'application ? Oui, la prise en compte par notamment le gouvernement, mais aussi le président de la République, est annoncée. Mmh. Nous attendons d'ailleurs
le rapport sera remis. Hein.
La remise du rapport. Est-ce que les politiques prendront leurs responsabilités ? Eh bien, c'est à eux d'en juger. En tout cas, nous ne pouvons pas penser que 130 citoyens mobilisés pendant 6 mois sur une question aussi essentielle, qui est quand même celle de l'avenir de la France. D'ailleurs, le manifeste que les citoyens ont voté hier le rappelle pour sa conclusion, ne puisse pas être suivi des faits.
Jean-Carl Deschamps, membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur France Info. L'essentiel de l'actualité dans quelques secondes.
Écouter la radio en DAB+, c'est avoir plus de stations avec une qualité optimale. Pour en profiter à la maison, est-ce que c'est compliqué ? Premièrement, il vous faut avoir une radio compatible DAB+. Deuxièmement, vous allumez votre radio DAB+ et c'est tout. Alors, vous attendez quoi pour passer au DAB+ ? Plus d'infos sur ensemble-pour-le-dab-plus.fr.
DAB+.
3 lettres pour une révolution de la radio. Et pour les fêtes, si vous cherchez une bonne idée cadeau, offrez une radio DAB+.
France Info, 7h-10h.
Vos chroniques santé, travail et votre livre de la semaine dans une minute, juste après l'essentiel de l'actualité. Il est 9h19 et on vous retrouve Diane Ferchit avec à la une de ce dimanche matin Donald Trump qui se dit ouvert à la négociation.
Alors que des pourparlers entre Américains, Ukrainiens et Européens s'ouvrent en Suisse aujourd'hui pour discuter du plan de paix en Ukraine présenté par Washington, document en 28 points qui fait craindre à Kiev une capitulation forcée. Il n'y a pas de scénario dans lequel la dignité et la liberté de l'Ukraine sont négociables, prévient vient ce matin sur France Info, la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées. L'interdiction de Chine en France, c'est ce que demandent 80 députés signataires ce matin d'un texte paru dans la Tribune dimanche. Une interdiction de la marque chinoise qui s'impose, selon eux, pour protéger les travailleurs, la santé publique ainsi que la planète. 20 préconisations pour mieux répondre aux besoins des enfants. La Convention citoyenne sur les rythmes scolaires rend, elle, sa copie. Aujourd'hui, parmi ces propositions, 5 jours d'école plein par semaine dès l'élémentaire, autant de vacances scolaires qu'aujourd'hui, mais avec seulement 2 zones, ou encore des journées d'école qui ne commenceraient qu'à 9h. Fin de la tournée d'automne du 15 de France de rugby. Avec ce succès hier soir au Stade de France, succès sur l'Australie, 48 à 33, 12 essais inscrits, dont 7 par les seuls tricolores. Des Bleus qui seront bien tête de série lors du tirage au sort de la Coupe du Monde. Il aura lieu dans 10 jours.
Et on retrouve nos rendez-vous du dimanche matin, notre livre du jour, notre vie au travail, notre santé bien sûr. Rémi Bostaron, Sarah Lemoine, Julien Méniel, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Sarah, vous allez nous parler santé mentale en entreprise. Julien, vous allez nous dire de ne pas faire n'importe quoi avec nos produits ménagers. Avant cela, Rémi, un livre au cœur de l'actualité ce matin, en ces temps de négociations sur l'avenir de l'Ukraine, ça s'appelle Volia, témoignage d'Anastasia Fomitchova, femme engagée, volontaire dans l'armée ukrainienne, c'est aux éditions Grasset.
Oui, c'est le témoignage qu'il faut lire aujourd'hui pour comprendre ce que veut dire concrètement résister au quotidien pour les Ukrainiens et les Ukrainiennes. Comme le disait Volodymyr Zelensky lui-même dans son allocution télévisée il y a 2 jours, ce sont avant tout des êtres humains qui depuis 4 ans retiennent l'une des plus grandes armées du monde. Et parmi ces êtres humains, il y a donc Anastasia Fomitchova, une jeune femme née à Kiev mais qui a grandi en France. Elle était étudiante à Paris en février 2022 quand l'invasion russe a commencé. Du jour au lendemain, sa vie a basculé. Elle a décidé de rentrer en Ukraine. Elle raconte ce voyage en bus, ce moment vertigineux où elle quitte notre monde, le monde des gens qui boivent un café, qui prennent le métro pour aller travailler, pour se retrouver des heures plus tard dans son pays natal avec, dit-elle, le sentiment de marcher vers la mort.
Et ce sentiment ne l'empêche pas de s'engager dans l'armée.
Non, elle s'engage comme infirmière de combat. Elle se retrouve au plus près de la ligne de front et elle fait dans ce livre le récit de tout ce qu'on découvrirait comme elle si on se retrouvait soudainement plongée dans la guerre, le contact avec le métal froid d'une arme qui devient pour elle comme un doudou rassurant, les instructions qu'elle doit donner pour ses funérailles, l'argent qui n'a plus aucune valeur, les pensées parfois surprenantes qui lui traversent l'esprit quand elle se dit qu'à tout moment un obus peut mettre fin à sa vie, et puis tous ces corps fracassés, ensanglantés qu'elle doit manipuler, une horreur qu'elle affronte avec de l'humour noir omniprésent, et avec cette fameuse Volia, qui est le titre du livre. Volia, c'est un mot ukrainien qu'on peut traduire à la fois par volonté et par liberté.
Et puis dans ce livre, évidemment, Rémi, il y a aussi un message qu'elle nous adresse.
Oui, à nous qui sommes loin de ce quotidien qu'elle raconte, nous qui n'avons pas connu comme sa famille et toutes les familles d'Ukraine, les souffrances infligées par l'impérialisme russe depuis plus d'un siècle, la famine des années 30, la terreur stalinienne, Tchernobyl, elle nous le dit, si nous sous-estimons cette menace mortelle, si l'on refuse d'ouvrir les yeux, alors les ténèbres continueront à gagner du terrain. Et comme un écho au débat de ces derniers jours sur la préparation des Français à la possibilité d'une guerre, elle rappelle que les Ukrainiens non plus n'étaient pas prêts à rejoindre les tranchées, mais face à la Russie, ils n'ont pas eu le choix.
Merci Rémi, ça s'appelle donc Volia d'Anastasia Fomitchova aux éditions Grasset. Le travail à présent, elle est là pour aider à accompagner, prévenir aussi. Sarah, vous nous parlez ce matin de la charte pour la santé mentale. Depuis son lancement en août, 150 entreprises l'ont signé. Alors, elles s'engagent à quoi, Sarah, ces entreprises ?
Eh bien, les entreprises qui ont signé cette charte vont devoir structurer un plan d'action sur 3 ans. Premier objectif, faire sauter les tabous autour de la santé mentale en communiquant largement sur le sujet auprès des salariés et du comité de direction. Ensuite, former les managers et développer une culture de dialogue permanent sur les conditions et l'organisation du travail, et puis aussi améliorer continuellement ces dernières. Il leur faudra enfin accompagner individuellement leurs salariés en souffrance psychique. Pour mesurer les progrès accomplis, les 150 entreprises signataires s'engagent à sonder une fois par an leurs salariés sur les actions menées. Les données permettront également de comparer les pratiques et d'être une source d'émulation. Le premier questionnaire partira courant 2026.
Alors quel est le profil des entreprises signataires de cette charte ?
Alors certaines sont déjà très engagées sur la question, d'autres moins, souligne Angèle Malâtre-Lansac, la déléguée générale de l'Alliance pour la santé mentale, l'organisation à l'initiative de cette charte. Parmi les signataires, des grands groupes privés, des structures publiques, mais aussi de petites et moyennes entreprises. Parmi ces dernières, le bureau d'architectes ENIA, qui emploie 90 salariés. Il s'est engagé sur la santé mentale il y a 10 ans, en acceptant d'aider au retour à l'emploi de personnes qui ont eu des troubles psychiques graves. L'entreprise a déjà mis en place un certain nombre de procédures en interne et revu certaines façons de travailler. Mais Brice Piechazik, l'un des fondateurs d'ENIA, dit rester humble face à ce sujet. Selon lui, la population des architectes est confrontée à des rythmes de travail intenses, des relations parfois tendues avec les clients. Il constate une sursensibilité au stress bien plus forte qu'il y a 10 ou 15 ans. Alors dans le cadre de la charte, il compte notamment former plus spécifiquement ses deux responsables de ressources humaines à la santé mentale.
Bon, et les entreprises qui signent, pour certaines, cherchent aussi à se situer par rapport à d'autres.
Oui, c'est le cas d'Éric Dana qui dirige CMPS, une entreprise d'assurance en protection sociale. Il souhaite savoir comment le sujet de la santé mentale au travail est abordé et traité dans d'autres secteurs d'activité que le sien, afin d'enrichir ses propres solutions. Selon lui, l'entreprise est un SaaS qui doit permettre d'identifier et d'alerter sur le mal-être d'un salarié, sachant que l'entreprise peut aussi en être la cause. L'objectif de l'Alliance pour la santé mentale est d'atteindre 3000 organisations signataires d'ici 2028.
Merci à vous, Sarah. Terminons avec vous, Julien. On vous retrouve équipé de votre balai, de vos chiffons, de votre serpillière, avec un conseil bien utile en ce dimanche matin, où on peut d'ailleurs tous en profiter pour faire le ménage. Attention au mélange de produits ménagers.
Oui, si vous êtes adepte des petits conseils de ménage sur les réseaux sociaux, par exemple, vous avez sûrement déjà entendu tout un tas de conseils, dont celui-ci. Utilisez un mélange de bicarbonate de soude et du vinaigre blanc pour nettoyer vos surfaces, le classique. Et bien pourtant, si ces deux produits peuvent effectivement être efficaces séparément, ils ne le sont pas du tout quand on les mélange.
Mais pour quelle raison?
Parce qu'il y a une réaction chimique qui se fait. Ça provoque,
ça fait pchit un peu.
Ça fait pchit, ça provoque une effervescence qui peut effectivement un petit peu décoller la saleté. Mais par contre, elle annule surtout les propriétés respectives des deux produits. Et pire, si vous forcez la dose, ça peut créer des projections et vous n'avez pas envie d'avoir du vinaigre dans les yeux.
Oui, c'est vrai.
Et attention, ce mélange est loin d'être le plus problématique.
Bon, on évite quoi d'autre comme mélange, Julien?
Pour rester sur le vinaigre blanc, son association avec de l'eau oxygénée, ça crée de l'acide peracétique qui est irritant à la fois pour la peau, les yeux et les muqueuses. Et mélangé à l'eau de Javel, le même vinaigre crée un dégagement de chlore gazeux qui peut entraîner des intoxications. De la même manière, si vous utilisez de l'eau de Javel avec un produit à base d'ammoniac, vous allez fabriquer des chloramines qui peuvent gravement irriter les voies respiratoires et provoquer jusqu'à des suffocations. Et c'est pas fini. Eau de Javel plus alcool ménager égale chloroforme et acide muriatique. Très toxique également, etc., etc. Et pas besoin de faire le mélange dans une bouteille pour que ce soit dangereux. Rien que le fait d'utiliser les deux produits successivement sur une surface ou dans la cuvette des toilettes, par exemple, ça peut suffire.
Bon, ça fait quand même beaucoup de cocktails à éviter. Comment on arrive à se souvenir de tout?
Alors déjà, vous avez compris, l'idée, c'est de ne jamais mélanger l'eau de Javel avec n'importe quel autre produit.
En fait, on évite les mélanges globalement.
Voilà, globalement, dans le doute, ne mélangez aucun produit ménager et ne les utilisez pas les uns juste après les autres. Et puis, deux derniers conseils, avant d'utiliser un produit d'entretien pour la première fois, même sans parler de mélange, jetez un œil à l'étiquette, lisez les recommandations, vérifiez les petits pictogrammes. Et quand vous faites le ménage, pensez à bien aérer la pièce dans laquelle vous êtes. D'ailleurs, n'attendez pas forcément d'avoir la serpillière à la main. Ouvrez vos fenêtres au moins 10 minutes tous les jours, même l'hiver, parce que contrairement à ce qu'on pense, l'air est souvent plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Merci à tous les trois. La météo arrive tout de suite.
Chez Orange, on sait qu'Alexis, ce qu'il aime, c'est...
tout filmer.
Et ce réalisateur en herbe n'a peur que d'une chose.
Oh non, j'ai plus de batterie.
Heureusement, avec l'iPhone 17 Pro et son autonomie prodigieuse de 31 heures, tout est sous contrôle. Et pendant le Black Friday, c'est 100 euros de remise immédiate sur une sélection d'iPhone pour tous, sans forfait et sans engagement.
Et action !
Orange est là.
Valable jusqu'au 3 décembre. Voir détails et conditions en boutique ou sur orange.fr.
Black Friday, vendredi noir.
France Info Météo, avec le CIC, entreprise à mission. S'engager à ne pas commercialiser les données de ses clients, c'est ça construire pour que le monde bouge.
Après la pluie vient le beau temps et après la neige vient...
la pluie et les conditions météo très agitées. Bon, ça y est, c'est terminé. L'épisode des jeux est terminé et la séquence hivernale, quand même, qui a duré une semaine, c'est terminé. Là, on va se rapprocher des valeurs de saison, mais la météo s'annonce très agitée. Alors, ce matin, on a encore quelques pluies verglaçantes. On a toujours deux départements qui sont placés en vigilance orange, neige, verglas, le Puy-de-Dôme et le Cantal. Mais donc, la neige laisse place à la pluie. La pluie qui arrive par la moitié ouest du pays, des pluies qui seront localement soutenues, elles vont se décaler un petit peu plus vers l'est cet après-midi. On va les retrouver entre les frontières du Nord, l'Île-de-France, la Bourgogne, la Franche-Comté, le Centre-Val de Loire, le Massif central et dans le Sud-Ouest, localement soutenu et accompagné de bonnes rafales de vent, en particulier sur les côtes atlantiques. Et puis sur l'Est, entre le Grand Est, le Nord des Alpes et le quart Sud-Est, ça reste encore sec aujourd'hui, mais alors le ciel est couvert et on a un petit peu de neige quand même sur le Nord des Alpes. Alors avec des températures, l'Euro 12 confirme, mais c'est encore très contrasté ce matin. On a encore de très fortes gelées sur les régions de l'Est, moins 8 degrés à Strasbourg, moins 6 degrés à Nancy, moins 3 degrés à Lyon, 0 à Lille. Et cet après-midi, toujours ce contraste entre l'Est et l'Ouest. Sur l'Est, 3 degrés seulement à Mulhouse, 6 degrés à Lyon, 7 à Lille, 8 à Montélimar, 9 degrés cet après-midi à Paris, alors qu'on avait 3-4 degrés hier et jusqu'à 17 au Pays Basque.
D'un tout petit mot, Patricia, c'est pas parce que ça va être plus doux qu'il va faire meilleur la semaine prochaine.
Il va pas faire meilleur, c'est très agité, avec de la pluie et des pluies qui seront localement soutenues sur la moitié sud du pays.
Merci à vous, Patricia Charbonnier. Restez bien avec nous sur France Info. Dans 10 minutes, nous avons rendez-vous avec les informés au programme, notamment la place des Européens sur les négociations en Ukraine, sur l'Ukraine plutôt. Elle se déroule aujourd'hui à Genève. On en parle dans les prochaines secondes et dans les informés. D'abord, votre journal, 9h30. Et voici Théo Metton-Régimbault.
400 000 femmes en portent en France. Les prothèses mammaires en silicone peuvent provoquer une inflammation et déclencher une maladie auto-immune. C'est une information France Info après une étude du CHU de Besançon. Des prothèses souvent utilisées après un cancer du sein. Anne Lordanier, 50 femmes ont participé à ces analyses menées par des chercheurs.
Ils ont prélevé des tissus dans le sein de 43 patientes qui devaient changer leur prothèse mammaire et ils ont découvert la présence de microparticules de silicone et de cellules du système immunitaire, celles qui sont chargées de nettoyer ces corps étrangers. L'équipe a aussi détecté l'activité de plusieurs gènes associés à des maladies auto-immunes comme le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde. Ils ont donc établi le lien entre la présence de silicone et une réponse immunitaire de la patiente. Mais il n'y a pas forcément de quoi s'affoler, rassure le docteur Isabelle Pluvy, qui a mené l'étude.
Le fait d'avoir de l'inflammation, ça ne veut pas dire forcément être malade. Toutes les patientes ont un petit niveau d'inflammation qui est plus ou moins intense selon le modèle de prothèse, par exemple, et selon l'état de la prothèse. Donc ce n'est pas forcément quelque chose pour lequel il faut s'inquiéter. Mais par contre, il faut réaliser comme un suivi régulier de ces implants pour dépister une éventuelle évolution vers ce type de maladie.
Le docteur Pluvy espère que sa découverte permettra d'améliorer ces implants mammaires en silicone pour en fabriquer une nouvelle version qui stimulera moins le système immunitaire des patientes.
Anne-Laure Danier, pour dire leur colère face à la persistance des violences faites aux femmes et réclamer un effort budgétaire, 50 000 personnes ont défilé à Paris hier, 17 000 personnes selon la police, autant dans le reste de la France. Le service militaire sera-t-il de retour dans notre pays sur la base du volontariat face à l'hypothèse d'un conflit armé en Europe? La Tribune Dimanche évoque un objectif de 35 000 engagés volontaires à horizon 2035, rémunération à la clé. Le gouvernement planche bien sur le sujet, confirme ce matin sur France Info la ministre déléguée aux armées. Ce sera au président de faire les annonces, dit-elle aussi. L'Europe, la guerre et la paix au programme des discussions entre responsables ukrainiens, américains et européens. Aujourd'hui, ils se retrouvent en Suisse et doivent travailler sur le plan de paix en Ukraine proposé par les États-Unis mais très défavorable aux Ukrainiens. Le président américain a fait savoir hier que ce plan n'était pas sa dernière offre et qu'il voulait la fin des combats d'une manière ou d'une autre. 9h32 sur France Info, coup d'envoi de la campagne municipale pour la France Insoumise. Convention aujourd'hui à Aubervilliers, au nord de Paris. Les Insoumis n'ont qu'une dizaine de mairies, surtout des petites villes ou des villes moyennes. Elia Bergel, pour la première fois, le mouvement se lance vraiment dans cette élection.
Oui, les Insoumis changent de braquet. Résumé de Paul Vanier, le monsieur élection de LFI.
En 2020, nous étions en soutien à des listes citoyennes dans un peu moins d'une centaine de communes. Et en 2026, nous serons présents dans plus de 500 communes.
Comme à Lyon, derrière la députée Anaïs Belouassa-Chérifi, qui promet un programme de rupture pour la ville.
La réquisition des logements vacants, il y a un enfant sur cinq qui va à l'école le ventre vide. Nous proposons des petits déjeuners gratuits, une cantine gratuite.
À Lyon, comme à Paris ou Marseille, les Insoumis envoient des candidats contre des maires sortants, écologistes ou socialistes. La division, ce n'est pas nous, se défend pourtant Manuel Bompard, coordinateur national LFI.
J'observe pour l'instant que le Parti Socialiste, en l'occurrence, a dit dans ses différentes communes qu'il ne pouvait être question de faire alliance avec la France Insoumise, ni au premier, ni au second tour.
Ça sera très dur de remporter des villes, reconnaît toutefois un député insoumis. Selon un cadre du parti, LFI ne dirige qu'une dizaine de mairies pour le moment, des communes de taille moyenne ou de petite taille. Mais cette irruption des insoumis au municipal fait enrager au PS. Un maire qui se représente l'an prochain accuse LFI de vouloir, je cite, « plumer » la volaille socialiste.
Elia Bergel, le Cantal, le Puy-de-Dôme, toujours en vigilance orange, neige et verglas, après des chutes de neige la nuit dernière.
Si à vous, Théo Metton, Réginbeau, merci beaucoup. 9h34, voici les sports.
France Info Sport, avec Omiris. Alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS à Grecknaps.
Et on vous retrouve, Noureddine Zidane, et nous commençons avec du rugby. Le 15 de France a livré une copie plus convaincante cette fois pour terminer sa tournée d'automne.
Avec la mention « peut mieux faire ». Alors oui, il y a la victoire 48-33 face à l'Australie. Un joli festival offensif avec 7 essais. Mais il y a encore trop d'indiscipline et des gros trop d'air en défense pour le capitaine Grégory Aldrit. Il va falloir redoubler d'efforts afin d'être prêt pour le prochain tournoi Destination.
C'est offensivement une belle prestation, mais voilà, il y a trop de fautes, donc on sait que les matchs de tournoi, ça peut se jouer à moins de 3 points, donc la discipline va être hyper importante pour le tournoi. Là, on a une période en club où on va retrouver les arbitres qui nous arbitrent au niveau international avec la Coupe d'Europe, donc ça va être à nous individuellement, chacun, de travailler dur, et ensuite on mettra tout en commun en arrivant pour le tournoi, pour progresser dans ce domaine et être plus performant voilà, défensivement.
En attendant de défendre son titre en février avec un premier match à domicile contre l'Irlande, le 15 de France va connaître ses adversaires de poule pour le Mondial 2027 en Australie. Ce sera le 3 décembre prochain. Les Bleus seront tête de série.
En foot, le PSG se met dans de plutôt bonnes dispositions avant de reprendre la Ligue des Champions. Ça, ce sera mercredi prochain.
Oui, ce sera face aux Anglais de Tottenham. Et hier, pour la 13e journée de Ligue 1, les Parisiens, sans nombreux joueurs cadres, n'ont pas forcé leur talent pour dominer le Havre. Score final 3-0. L'essentiel est fait pour le milieu de terrain du PSG, Ceni Mayulu.
Oui, bien sûr. En plus, on revient de trêve. Donc là, il faut se remettre dans la dynamique. Donc ouais, cette victoire, elle fait du bien. Il nous remet en confiance pour le match de Tottenham. Donc voilà, très content et en confiance. Mais même l'année dernière, on n'était pas pour autant à l'aise de fou. Hein. On continuait quand même à vouloir gagner chaque jour. Donc ouais, donc là, oui, comme vous l'avez dit, c'est un peu plus serré. Mais on continue, on prend match par match. On veut gagner. Prendre le large.
Prendre le large avec 2 points d'avance sur l'OM et sur Lens qui a battu Strasbourg avec le tarif minimum 1-0. Mais au classement, les Lensois distancent les Alsaciens et creusent un écart de 6 points à la grande satisfaction de l'attaquant sans et or, Adrien Thomasson.
C'est une victoire méritée, même si c'était pas un match très emballant. On a conscience, mais on s'est créé les plus grosses situations. J'ai pas le souvenir que notre gardien ait fait un arrêt aujourd'hui, donc la victoire est entièrement méritée et je pense qu'avec un peu plus d'efficacité, on aurait pu mettre un but, voire deux supplémentaires.
L'efficacité, le Stade Rennais n'en a pas manqué en battant largement Monaco 4-1. Monaco avec qui Paul Pogba a joué les dernières minutes du match après plus de 2 ans sans rencontre officielle.
Les sports mécaniques, comme on dit à présent, et une Française sacrée champion du monde cette nuit.
Et elle s'appelle Doriane Pain, un titre assuré après sa 5e place au Grand Prix de Las Vegas. Vice-championne la saison dernière, la jeune femme de 21 ans remporte cette 3e édition de la F1 Academy, un championnat de monoplace réservé aux femmes, où les pilotes sont parrainés par chacune des 10 écuries de F1. Doriane Pain représentant l'écurie Préma Mercedes et George Russell, pilote F1 Mercedes, lui rend hommage au micro de nos confrères de Canal+.
Oui, je suis très heureux pour Doriane Pain qui a gagné la F1 Academy. Elle travaille si dur cette année. Elle nous demande souvent des conseils. Elle n'est pas timide, elle n'a pas peur de poser des questions, de demander des choses, et je suis vraiment très content pour elle.
Russell, 3e du Grand Prix de F1 de Las Vegas, remporté cette nuit par Max Verstappen. C'est la 69e victoire de la carrière du Néerlandais. Il devance Lando Norris, mais le Britannique pourrait être disqualifié, tout comme son coéquipier Oscar Piastri. Des éléments des deux McLaren ne seraient pas conformes au règlement. La La décision finale des commissaires de course est attendue dans la matinée à deux grands prix de la fin. Cela relancerait totalement la course au titre mondial. Enfin, c'est une première pour le beach volley, une médaille au championnat du monde et elle est en bronze pour la paire Théo Rotard et Arnaud Gauthiera. C'était ce matin à Adélaïde. En Australie.
Merci à vous Noureddine Zidane et vous les avez peut-être entendus, ils sont déjà dans le studio les informer. C'est dans une minute, à tout de suite.
Le Crédit Mutuel donne le la à l'Hyper Weekend Festival du 23 au 25 janvier prochain à la Maison de la Radio et de la Musique à Paris. Exclusif, Charlotte Gardin, Kerenan et Ronisia rejoignent la programmation de cette édition. Aux côtés de Nash avec le producteur Electro Von Felt, Victor Solf dans un tribute à l'album Blonde de Frank Ocean, le rappeur Jeune avec Can Blaster pour une création inédite et pour sa première parisienne, le prodige du flamenco Yeray Cortés. Sans oublier Youssoupha, célébrant Balavoine. En partenariat avec le Crédit Mutuel, Biocoop, Mastercard et l'Adami.
Et ravi de vous retrouver pour les informer, 20 minutes pour décrypter toute l'actualité politique et pas que de ce dimanche et de la semaine qui arrive avec vous Mathilde Thiraud, bonjour.
Bonjour Adrien.
Et je salue nos deux informés, bonjour Richard Verly,
bonjour.
Éditorialiste au quotidien suisse Blick et je salue également Dorian Dreuil, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des études de l'Institut Bonafide, membre de l'Observatoire de la vie politique à la Fondation Jean Jaurès. Notre premier thème, et on en a parlé ce matin évidemment sur France Info, Mathilde, nous amène autour de l'actualité internationale, l'Ukraine, bien sûr, et comment l'Europe va tenter de peser sur l'élaboration de ce plan américain de paix en Ukraine.
Oui, plan de paix américain favorable aux Russes, concocté, vous l'avez dit, dans le dos des Européens. On a vu la réaction plus que mitigée d'Emmanuel Macron hier. Alors aujourd'hui, ça se passe à Genève. Les Britanniques, les Allemands et les Français ont réussi à s'inviter au pourparlers entre Américains et Ukrainiens. Intense activité diplomatique, donc, branle-bas de combat en Europe, même si c'est Donald Trump qui mène la danse, qui impose son tempo. Et c'est dans ce contexte très troublé, Adrien, que le réarmement se met en place en Europe et en France. Ce matin, la Tribune Dimanche révèle qu'Emmanuel Macron pourrait s'exprimer dès cette semaine sur son projet de service national volontaire. Et c'est un projet dont on a parlé ce matin avec sa ministre déléguée aux armées, Alice Ruffo. Elle était notre invitée sur ce plateau.
Oui, je confirme qu'il y a des travaux en ce sens. Vous avez dit, vous avez parlé de volontariat. Je pense que c'est effectivement un mot-clé. Il y a une volonté d'engagement. Deux, il y a différentes formes d'engagement. Une de nos très grandes forces, en Europe et en France en particulier, c'est qu'on a une jeunesse qui a des compétences technologiques, qui a des compétences qui doivent absolument pouvoir trouver un cadre pour notre défense.
Voilà, avec beaucoup de prudence pour le moment, mais dispositif qui pourrait quand même concerner 50 000 jeunes d'ici à 2035.
Alors, on va rentrer dans le détail, on va évoquer ce sujet de forme de service militaire non obligatoire qui ne dit pas vraiment son nom. On va en parler. D'abord, l'actualité, effectivement, du moment. Je commence avec vous, Richard Verly. C'est la manière dont les Européens tentent de s'inviter à la table des négociations. On a l'impression que les Européens passent leur temps à s'inviter à la table des négociations avec les États-Unis, notamment.
Bon, la chorégraphie, elle est assez classique. C'est celle, au fond, qui a eu lieu au mois d'août, vous vous souvenez.
Voilà.
Donald Trump rencontre Vladimir Poutine et ensuite les Européens se ruent cette fois à Washington pour lui dire il ne faut pas faire comme ça, etc. Là, c'est pareil. Donald Trump présente un plan de paix, ou en tout cas 28 points, et les Européens essayent de recoller les morceaux, en quelque sorte. Alors, cela dit, moi, je ne le prendrai pas si dramatiquement. Mm-hmm. Je crois que l'initiative revienne à Donald Trump, sachant que les États-Unis sont les premiers soutiens militaires à l'Ukraine et que surtout leur aide militaire est indispensable en matière de renseignement, en matière d'équipement, ça ne me choque pas. Le point central, c'est dans quelle mesure Donald Trump est-il prêt à bouger à travers ses négociateurs.
Il a dit cette nuit que ce n'était pas sa dernière proposition, dit en des termes presque de
de négociateurs financiers.
Alors, il y a une méthode qui est la méthode Trump, l'ultimatum Thanksgiving, ultimatum très américain s'il en est, parce que Thanksgiving, on ne le fête pas en Europe, c'est le moins qu'on puisse dire. Après, on va voir. Je pense que ce qui est intéressant maintenant, c'est est-ce que les Européens vont taper du poing sur la table, vont formuler des lignes rouges, ou est-ce qu'ils vont s'accommoder de la situation. Moi, je fais un parallèle parce que ça se passe à Genève, ça se passe en Suisse. Vous savez, il y a eu un long processus, très long processus, qui était celui des négociations sur les Balkans. Vous vous souvenez, fin de la guerre de Yougoslavie dans les années 90, ça avait duré très longtemps. Je me demande si on n'est pas à la veille d'un processus de ce type, à savoir une longue phase de négociation qui va s'étirer pendant que sur le terrain, des combats continuent. J'espère que ce ne sera pas le cas.
C'est vrai, Dorian Dreuil, que c'est ce que nous disait ce matin la ministre déléguée aux armées, Alice Ruffo. Elle nous disait, ne croyez pas que ça n'avance pas. Parce que, je lui faisais la réflexion, je disais, on a l'impression, ce que décrivait Richard Verli, qu'il y a Donald Trump qui avance quelque chose, les Européens qui viennent en lui disant, c'est pas comme ça qu'il faut faire, donc Donald Trump change d'avis, puis finalement il parle à Vladimir Poutine, il change à nouveau d'avis, etc., etc., et ça n'en finit pas. Ça avance quand même en réalité, à vos yeux ?
Oui, ça avance, et dans ce qu'on appelle de la diplomatie de couloir, c'est-à-dire d'une manière, il y a différentes formes de négociations diplomatiques. Il y a celles qui s'affichent parce qu'il y a des messages à envoyer ou à faire passer, et celles qui s'affichent moins pour garantir que les discussions avancent entre les différents partis. Mais tout ça est assez symptomatique de quelque chose qu'on peut observer depuis 2 à 3 ans, par ailleurs. C'est une forme de dérèglement des instances multilatérales ou de l'échec d'une forme de multilatéralisme sur l'espace géopolitique à justement coordonner les différents partis pris à une négociation ou autre. Et on l'a vu avec le G20 ou avec toutes ces différentes instances qui peinent aujourd'hui à se coordonner ou à montrer de la coordination entre les différents acteurs. Et tout ça est aussi et beaucoup du fait de Donald Trump qui a remis une forme de brutalité bilatérale ou en tout cas une forme de mainmise sur les négociations d'État à État en privilégiant cette forme-là de discussion versus d'autres enceintes internationales qui avaient jusque-là porté ce qu'on appelle le multilatéralisme, c'est-à-dire des institutions internationales formelles ou informel.
Des formats, comme on se souvient, des formats de Minsk,
ou le format Normandie, qui avait été poussé par le président de la République, Emmanuel Macron. Et donc, on a comme ça cette nouvelle méthode qui s'installe, qui est ce que Giuliano D'Ampoli appelle l'heure des prédateurs, c'est-à-dire cette espèce de violence ou de puissance bilatérale d'État à État versus d'autres formats où, et c'est plutôt dans la tradition européenne, notamment, de créer des formats qui permettent du collectif, qui permettent de la coordination, permettent aux discussions de se faire avant d'aller sur le devant de la scène.
Quand même, Richard Verli, je rappelle que vous êtes correspondant pour un quotidien suisse à Paris, et aujourd'hui ça se passe dans une des villes symboles justement du multilatéralisme, c'est Genève. Pour quelle raison ?
Alors pour 3 raisons à mon avis. D'abord, il ne faut jamais oublier cette raison, c'est la logistique. C'est simple, à Genève tout peut s'organiser très vite, tous les pays... Je veux dire, la France, le Royaume-Uni ont des représentations permanentes avec des diplomates qui peuvent être mobilisés immédiatement et des diplomates, j'allais dire, de première qualité. C'est pas négatif pour les autres, mais à Genève, on envoie en général des gens très solides. Et donc, évidemment, vous mobilisez très vite une task force pour des négociations et les Suisses se chargent de la mettre en place dans une forme de confidentialité qui est assez helvétique. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il y a aussi l'habitude diplomatique et la connaissance, la capacité de la Suisse, si les négociations devaient être compliquées, non pas à intervenir parce qu'elle n'interviendra pas, mais à faire en sorte que les choses se passent bien, à parfois isoler des délégations, parler à d'autres. Ça, c'est un savoir-faire. Il se trouve que la Suisse l'a. Et la Suisse, par ailleurs, connaît très bien le dossier ukrainien puisqu'elle avait, rappelez-vous, en 2024, hébergé une conférence sur la reconstruction et sur la paix en Ukraine à laquelle la Russie ne participait pas. Ça se passait au Burgenstock en Suisse centrale. Et j'ai relu le menu de cette conférence, et c'est au fond exactement ce qui est posé aujourd'hui.
Ah oui.
On parlait garantie de sécurité, on parlait reconstruction, on parlait armée ukrainienne. Donc vous voyez, au fond, les dossiers, je ne vais pas dire les dossiers sont en Suisse, mais ils sont en tout cas dans un tiroir à Genève.
Et voilà, Mathilde aussi, qui pose la question de notre attitude à nous, citoyens, face à la guerre, attitude qui a été questionnée cette semaine par les propos du chef d'état-major des armées et qui a tenté de clore la polémique, là, ça y est.
Oui, c'est vrai que ces propos sur accepter de perdre nos enfants ont fait beaucoup réagir. Tollé politique avec énormément de réactions de la part de la France Insoumise, du Rassemblement National, des communistes et le gouvernement qui a été quand même obligé quand même de corriger parce que vous avez eu la porte-parole du gouvernement, Maude Brejon, qui a atténué les propos. Emmanuel Macron qui lui aussi s'est exprimé hier pour apporter son soutien au chef d'état-major des armées. C'est vrai que c'est assez c'est peu commun d'avoir le plus haut gradé militaire français qui soit à ce point dans la communication. Il était aussi hier soir sur un plateau de télévision. Alors, il y a la nécessaire pédagogie, parce que c'est vrai que sur la réalité de la menace, c'est tout à fait son rôle que d'informer, que d'alerter. Et c'est vrai que sur le fond, finalement, il n'a pas dit autre chose que ce que répètent Emmanuel Macron et ses ministres des armées successifs sur la réalité de ce qui peut éventuellement se passer.
Et c'est dans ce contexte, vous le disiez au début de l'émission Mathilde, qu'on commence à s'interroger, qu'Emmanuel Macron envisagerait de s'exprimer sur la question d'un possible service militaire volontaire d'Orient Dreuil. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une attente dans la société pour que voilà, un certain nombre de jeunes retournent prendre les armes d'une certaine façon ?
L'attente, il me semble qu'elle est plus du côté de la société militaire ou société politique, avec un besoin de renforcer les corps réservistes notamment, et elle peut rencontrer, sur une partie de la société, une forme d'envie d'agir, d'engagement, et donc reste à voir comment va se préciser ce dispositif. Est-ce que c'est la version très militariste peut-être du SNU, du Service National Universel, qui était plutôt en voie d'extinction ces dernières semaines, ces derniers mois, et surtout, dans quelle manière ça va être encadré sur la question du volontariat, parce que ça me semble être le mot clé de ce dispositif. C'est un dispositif qui est basé sur le volontariat de chacune et de chacun, de vouloir s'engager sur une période déterminée ou autre. Et c'est ça qui fait toute la différence, je pense, avec les dispositifs qu'on avait connus avant qu'ils soient supprimés par Jacques Chirac, il me semble, en 1995.
Service militaire
précédent,
classique,
service
la conscription
obligatoire. Et reste à savoir aussi, dans la pédagogie qui sera faite sur ce dispositif, comment est-ce que cet engagement civique dans la société civile se traduit aujourd'hui avec les enjeux d'une armée professionnelle et de tout discours qui a existé ces dernières années autour de la professionnalisation du corps militaire et donc de l'enjeu, c'est une des raisons de suppression du précédent service militaire.
Un tout dernier mot sur le sujet, Richard Verly, on n'est pas les seuls en Europe à songer à remettre une forme de service militaire.
Oui, les Suédois par exemple, la ministre Alice Truffaut l'évoquait tout à l'heure, je pense que c'est un sujet européen, vous savez qu'en Suisse on a pas garder l'armée de conscription. Je crois que c'est... Il y a une attente, mais paradoxalement, je me demande si l'attente, elle est du côté des jeunes. Il y a une attente de la société, il y a une attente des générations plus âgées qui regrettent le service militaire, qui estiment qu'il y aurait une cohésion nationale forgée à cette occasion. La jeunesse, c'est autre chose, mais de toute manière, on a compris que la vraie question, ce sera celle du coût et de la capacité de mettre en œuvre un tel projet.
On parle du budget, vous restez tous les deux avec nous, on parle du budget dans quelques secondes. D'abord l'essentiel de l'actualité, 10h-10, Diane Ferschit.
Attention au verglas dans le massif central. Deux départements du centre de la France sont toujours en vigilance orange, neige et verglas ce matin. Le Cantal et le Puy-de-Dôme, les autres vigilances levées, y compris en Île-de-France où la neige est tombée cette nuit 1 à 4 cm en moyenne. Plus on sera nombreux, moins ce sera possible de nous faire taire les mots hier d'Amine Kessassi à Marseille lors de la marche blanche organisée en hommage à son frère assassiné. Plus de 6000 personnes étaient présentes. Amine Kessassi se bat contre les narcotrafiquants. Les enquêteurs envisagent la piste du crime d'avertissement. Le plan de règlement du conflit en Ukraine vient bien des États-Unis, c'est ce qu'assure Washington, alors que des sénateurs américains affirment que ce plan correspond simplement aux exigences de la Russie. Émissaires américains, ukrainiens et européens sont réunis à Genève aujourd'hui pour en discuter. Au Brésil, l'ancien président Jair Bolsonaro reconnaît avoir utilisé un fer à souder pour ouvrir son bracelet électronique. Il est désormais en détention provisoire. En septembre dernier, Jair Bolsonaro a été condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État.
France Info.
Les informés. Adrien Beck, Mathilde Sirot.
Toujours avec Richard Verly, éditorialiste au quotidien Blic et Dorian Dreuil, membre de l'Observatoire de la vie politique à la Fondation Jean Jaurès. Mathilde Sirot, notre deuxième sujet, c'est le budget rejeté, donc on en a parlé hier matin. Est-ce l'échec de la stratégie Le Cornu ?
plus de 100 heures de discussion, Adrien, et on ne voit toujours pas très bien comment est-ce qu'on peut avoir encore dans les temps un budget d'ici la fin de l'année, en tout cas un budget voté. C'est vrai que Sébastien Lecornu a permis que cette discussion parlementaire puisse se tenir, mais là, le gouvernement n'a pas vraiment de plan, en fait, de sortie, si je puis dire. Alors, on entend parler de part et d'autre de l'hémicycle d'un retour du 49-3, on entend parler éventuellement d'ordonnances, et le gouvernement a préparé les esprits cette semaine au scénario d'une loi spéciale. Qu'est-ce que ça implique, Adrien ? Ça implique finalement que le budget de 2025 serait provisoirement reconduit et qu'on repartirait à la rentrée de 2026, en janvier,
sur un nouvel examen du budget.
Donc on n'en sort pas. Et je dirais, jamais l'incertitude, à la fois sur le calendrier, mais aussi sur le contenu de ce budget, a été aussi prégnant. Là, on le sait, le budget est parti au Sénat. Mais plus ça va, et plus finalement les marges de manœuvre du gouvernement se réduisent sur cet examen budgétaire.
Dorian Dreuil, est-ce que vous partagez le constat pas très rassurant de Mathilde Sirot ? C'est-à-dire qu'on ne sait plus complètement où on va, là.
Non, alors, on sait comment la navette va se passer. En termes de procédure parlementaire.
La navette parlementaire.
Voilà, la copie qui est envoyée au Sénat, qui va commencer à discuter dessus jeudi, normalement, de cette semaine, est la version initiale du gouvernement. Et donc, après, il y aura une CMP, la commission mixte paritaire composée de 7 députés et 7 sénateurs, qui doit trouver un texte de compromis ou des compromis. Faute d'accord, après, chaque chambre va réexaminer encore le texte. Donc ça, c'est les seules certitudes qu'on a. Restera après savoir si l'article 49 alinéa 3 est activé par le gouvernement malgré qu'il ait pris l'engagement de ne pas le faire et si effectivement il y a l'option loi spéciale qui va s'accorder. Tout ça dans un moment où il y a une difficulté à trouver une majorité, bon ça c'est pas nouveau, mais la deuxième difficulté qui va s'ajouter, c'est qu'on rentre dans le money time.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que plus les jours passent et plus on aura cette difficulté à trouver de la sérénité pour discuter du texte. Donc on est toujours dans ce moment de un peu à la recherche du compromis perdu dont on entend parler depuis des mois. Je serais peut-être un peu optimiste, j'aurais un regard optimiste à dire que ces 125 heures de débat sont utiles pour notre vitalité démocratique. Pour le débat public, ça permet de montrer aussi bien que la démocratie parlementaire fonctionne, et ça nous montre aussi que la démocratie parlementaire, bien c'est un apprentissage qu'on est en train de l'apprendre peut-être de la manière un peu la plus difficile, mais qu'il faut avoir aussi foi dans ce processus de démocratisation de nos institutions. Ça se passe très bien dans tous les autres pays autour de nous, notamment les régimes parlementaires européens. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à trouver un texte de compromis.
Richard Verly, là-dessus, c'est quand même quoi ? C'est l'échec de la méthode Lecornu, c'est l'échec de l'ensemble des parlementaires, comme le dit Dorian Dreuil, qui finalement n'aurait peut-être pas complètement la maturité encore pour arriver à trouver un accord.
Mais c'est surtout, et ça me frappe, l'absence de cohérence. À partir du moment où un certain nombre de partis, et on les connaît, forment une coalition non dite pour ne pas retourner aux urnes, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit, de la droite traditionnelle aux macronistes en passant par les socialistes. La logique d'un pays parlementaire serait qu'ils aient un point d'arrivée. Entre-temps, il y a des postures, il y a des amendements, il y a des envies, il y a des frustrations, mais on a un point d'arrivée pour aboutir à un budget.
Mais il n'y a pas eu de travail, peut-être,
alors,
sur ce point d'arrivée.
Moi, ce qui me frappe, et c'est là quand même une différence avec d'autres pays, c'est qu'on ne voit pas le point d'arrivée. On a l'impression que finalement, les uns et les autres ne se sont pas parlé, et les uns et les autres continuent d'être, j'allais dire, en désaccord fondamental sur la nature même du budget. Donc là, il y a un problème quand même. Comment voulez-vous que les Français comprennent que ces partis sont prêts à travailler ensemble, alors qu'ils démontrent au quotidien qu'ils ne le sont pas ? Et moi, je pense que si c'est ça qui va être exposé dans les jours à venir, plus on se rapproche du délai, beaucoup de Français se diront, finalement, c'était quand même nettement mieux quand on avait la logique majoritaire. On était alignés, le Parlement était au garde à vous, ça fonctionnait nettement mieux.
Un dernier mot, Dorian.
Au-delà de la séquence budgétaire comptable, ce que dit Richard est très vrai, c'est que le risque derrière tout ça pour les mois et années qui viennent, et notamment vis-à-vis des prochaines échéances, c'est de jeter un peu le bébé avec l'eau du bain, de montrer l'échec d'une forme de démocratie parlementaire, l'échec de recherche du compromis, d'un débat apaisé, qui derrière va nourrir d'une certaine manière des pulsions ou tentations autocratiques qui existent dans la société, dans le dans le paysage politique à dire effectivement, puisque tout ça ne fonctionne pas, mieux vaut un pouvoir concentré, un peu plus fort et qui avance. Et c'est tout le danger du débat démocratique pour les mois à venir.
Merci à vous, Dorian Dreuil, directeur des études de l'Institut Bonafi, des membres de l'Observatoire de la vie politique à la Fondation Jean Jaurès. Merci, Richard Verly. On peut vous lire dans le quotidien suisse Blick. Et merci, bien sûr, Mathilde Sirot. Voilà pour les informés qui reviennent demain matin à 9h. Très bonne journée sur France Info.
Chez Orange, on sait que le Père Noël, en fin d'année, il est...
Oh là, débordé, débordé, débordé.
Et s'il veut faire le tour de toutes les maisons, il n'est pas contre.
Quelques lutins en plus.
Donc, Orange aussi vous fait des cadeaux. Durant le Black Friday du 20 novembre au 3 décembre, il y a toute une sélection de téléphones et d'accessoires à prix réduit, y compris sur des téléconnectés Samsung.
Ça vaut le coup d'être sage toute l'année, non?
Orange est là.
Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine dans les boutiques Orange et sur orange.fr. Black Friday, vendredi noir.
Votre attention, s'il vous plaît. En raison des intempéries.
Salut, je suis graphiste, j'ai 22 ans. Je voulais vous parler de ma campagne pour SOS Village d'Enfants.
Mais rendez-moi ce micro!
Tu as des idées, tu veux les faire entendre? Dévoile ta créativité en participant au Mademoiselle Peach Awards et imagine la nouvelle campagne de SOS Village d'Enfants. Si tu gagnes, tu verras ta campagne partout. Brief et inscription gratuite jusqu'au 2 mars sur mademoiselle-peach-awards.com.
Concours de pub ouvert aux freelances et étudiants, organisé par Mademoiselle Peach avec le soutien de Radio France Publicité.
France Info Météo, avec le CIC, entreprise à mission. S'engager à ne pas commercialiser les données de ses clients, c'est ça construire pour que le monde bouge.
Après le blanc, le gris, Patricia Charbonnier.
Du gris et de la pluie qui arrive sur la moitié ouest du pays avec un très net redoux. Il fait déjà 13 degrés à Brest et Quimper ce matin, mais les températures sont encore négatives. Sur une large moitié est, de fortes gelées ce matin, moins 8 degrés à Strasbourg, moins 6 degrés à Nancy. Attention, risque encore de pluie verglaçante dans la matinée autour du Massif central. Et cet après-midi, c'est donc la pluie qui prend le relais sur une bonne partie du pays. Un temps vraiment maussade et très humide avec des températures encore très contrastées cet après-midi. Le froid va résister sur le quart nord-est du pays avec 3 degrés à Mulhouse, 4 à Dijon, 6 à Lyon, 7 à Lille. Mais on attend 9 degrés à Paris, 13 à Nice, 15 à Bordeaux et 17 à Biarritz.
Merci Patricia, bientôt 10h. Je vous laisse au bon soin de Benjamin Fontaine. Bonjour Benjamin.
Bonjour Adrien, bonjour à tous. On vous laisse vous remettre sous la couette Adrien après cette matinale, vous l'avez bien mérité. C'est important le sommeil, c'est d'ailleurs ce que dit aussi la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant. Elle vient de terminer son rapport et propose un grand chamboulement à l'école.